Bienvenue à l'heure de pointe, vous écoutez Radio Panique, le 105.4 FM à Bruxelles, 3xW Radio Panique avec un K.org à travers le monde. Je vous avais promis un entretien avec la réalisatrice de ce documentaire « Tu travailles, t'as droit au chômage », Diane Smith. Diane Smith, es-tu bien arrivée ?
Oui, je suis là.
Et voilà, et donc c'est les magies des ondes et de la capacité de communiquer à travers un studio par le combiné du téléphone et d'arriver jusqu'à ta maison. Es-tu bien installée ? Bien installée ?
Oui, je suis bien installée, oui.
Bien installée. Et donc, chers auditeurs, nous allons nous entretenir au sujet de « Tu travailles, t'as droit au chômage », un documentaire radiophonique. Alors, Diane, si tu pouvais nous exprimer comment est arrivée cette histoire, ou en tout cas le souhait, la volonté de documenter cette expérience des personnes recourant au dispositif d'insertion socio-professionnelle, article 60.
Eh bien, moi-même, je suis sortie de l'IAD en 2009, et puis j'ai commencé à travailler dans le cinéma en tant qu'assistante à la mise en scène. Et malgré le fait que je travaillais, j'avais pas mal de contrats comme RPI, des défraiements, des choses comme ça, et je n'arrivais pas en fait à cumuler le nombre de jours qu'il fallait pour le statut d'artiste, et notamment j'avais pas non plus droit au chômage parce que je ne faisais pas 312 jours consécutifs. Donc très vite ça a été difficile quand je n'avais pas de boulot, et donc quelqu'un m'a donné le contact de ACT, artiste et créateur au travail, qui m'a dit, si tu fais un article 60, nous, on peut continuer tu peux continuer à travailler dans le domaine artistique, et à côté de ça, avec l'article 60, tu pourras ouvrir tes droits au chômage. Et donc, je me suis retrouvée dans ce dispositif-là, et je me suis retrouvée à l'animation CAFA, où on devait apprendre à gérer un budget, et c'est là que je me suis dit, il y a un truc à faire, il faut parler de ça, quoi.
Donc, ça s'est passé à quelle année et où ? On entend que c'est la commune de Saint-Gilles et de son CPS. Ça s'est passé dans cet environnement-là ?
Voilà, moi j'étais exactement au CPS de Saint-Gilles. Et c'était en 2012-2013. Et c'est pendant que je faisais mon article 60, du coup, que je me suis dit, je vais essayer de faire proposer un documentaire radio. Et j'ai commencé à me balader. J'ai demandé d'abord l'autorisation au CPS de Saint-Gilles, qui m'a ouvert les portes très volontiers. Et j'ai commencé à me balader avec un zoom, donc un petit enregistreur, et à essayer de capter. Et j'ai très vite compris que les gens qui étaient au CPS n'étaient pas toujours très à l'aise. Et moi-même, quand j'étais au CPS, j'étais pas très à l'aise. Et du coup, je me suis dit que le médium radio était sûrement plus approprié par rapport à une parole qui aurait un peu de honte à expliquer la situation dans laquelle elle se trouve. Et voilà. Et effectivement, la radio était plus à même de libérer les langues, en fait.
Et donc, en fait, les conditions de... Il y a eu du repérage auparavant. Comment se passait le tournage seul, avec quelqu'un en plus ? Comment, justement, par rapport à cette gêne ou cette discrétion de la part des personnes recourant au CPS, tu étais seule, tu étais accompagnée ? Comment tu t'es positionnée ? Tu t'es impliquée personnellement ?
Ben, au départ, pour les sessions collectives, c'est-à-dire quand on entend le président du CPS et quand on a les sessions CAFA, c'est-à-dire on apprend à gérer un budget. Donc là, j'avais pris un ingénieur du son parce que moi-même, j'étais pas techniquement très à l'aise de faire ce genre de prise de son. Et vraiment pour ces moments-là, j'avais un ingénieur du son. Et par contre, pour les interviews, les entretiens, j'étais toute seule. Donc je partais toute seule et on se retrouvait dans un endroit, soit dans un café, soit chez moi, autour d'un thé, et puis on discutait, quoi.
Effectivement, ça s'entend que quand l'homme avec sa voix assez intense comme ça, qui parle longuement avec un beau débit, on dirait qu'il est dans une espèce de bulle, alors que la rencontre avec des collégionnaires d'Article 60, on sent que vous êtes plus proche, qu'il y a moins de distance entre le micro et leur parole. Mm-hmm.
Mais on avait fait ça chez moi, et puis par exemple, je sais, chaque fois c'est assez libre, quand je les contactais, je leur demandais, voilà, où est-ce que vous voulez qu'on se retrouve, on peut se retrouver chez moi, chez vous, dans un parc, dans un café. Et donc c'était un petit peu pour les mettre à l'aise. Mmh. Et donc voilà, par exemple, celle qui voulait être PDG dans une grande entreprise, on était dans un parc, dans une après-midi, c'était assez... Il faisait beau avec les oiseaux, les enfants qui jouent, c'était assez sympa, quoi.
Et qu'est-ce que cette rencontre avec ces personnes t'a appris sur l'institution du CPS et
Pas forcément sur l'institution du CPS, parce que moi je tape pas vraiment sur le CPS ni sur le principe. Je trouve que c'est vachement bien de pouvoir proposer ce genre de dispositif aux gens. Ça les revalorise aussi au travail et tout ça, parce que il y a beaucoup de gens qui sont, j'ai envie de dire, dans un état dépressif parce qu'ils se sentent inutiles et ils sont considérés comme des assistés sociaux. Donc moi, c'était surtout voir que ces gens-là sont dans un désarroi. Ces gens-là ont envie de travailler. Et c'était surtout ça que j'avais envie de mettre en lumière. C'est tous ces gens qui ont envie de travailler et qu'on culpabilise à dire « vous trouvez pas de boulot », alors qu'en fait... Le problème se situe ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Enfin, c'est mon point de vue.
Mais c'est assez bien exprimé d'ailleurs par le président du CPS, ou c'est celui qui donne la formation sur l'endettement, là où il y a un rapport, une proportion entre le nombre de personnes à la recherche d'un emploi et
le.
Ouais. Donc, c'est pas que ton point de vue, c'est vraiment des chiffres à l'appui.
Oui, mais bon, ça dépend aussi. Il faut savoir que le président du CPS, il a quand même une certaine couleur politique et donc des idéaux. Je suis pas sûre que quelqu'un, par exemple, qui serait très à droite, dirait que on est dans cette situation-là.
Évidemment, ça dépend de la qualité des emplois, la qualité des conditions de travail. Est-ce qu'il y a des droits qui sont assortis au contrat, est-ce que les droits sont bien respectés, des choses comme ça. C'est ce type de travail-là dont on parle, d'accord.
Oui, puis il y a plein d'emplois précaires. Voilà, comme on... Là, je parle de l'article 60, mais j'aurais pu parler du plan Activa, j'aurais pu parler du plan PTP, où finalement, c'est des emplois aidés, ou pour certaines entreprises, voilà, on va alléger les charges pour... Mais du coup, ça n'offre pas un boulot stable et ce que tout le monde espère, un CDI, quoi. Le CDI providentiel, il n'y est pas, quoi.
Oui, en effet, Donc, en fait, nous écoutons Tu travailles, t'as droit au chômage dans le cours d'une programmation appelée La nécessité d'errer. Et quand elle n'est pas une contrainte, l'errance est un itinéraire, un voyage qui n'est pas forcément déterminé, mais en tout cas qui est volontaire. Et ça peut être aussi un lieu où on se trompe, où l'on se perd. Et là, mon sentiment en tout cas, c'est qu'on fait croire aux gens que c'est eux qui sont dans l'erreur. Le fait de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de statut social lié à une activité économique. Alors qu'en fait, comme c'est dit, c'est des dispositifs de subvention par l'État et ça met en situation de concurrence les gens par rapport à l'accès à un PTP, l'accès à un plan Activa. Mmh. Est-ce que ça s'est ressenti quand les gens... Parce que tu dis champagne pour quelqu'un qui a vraisemblablement trouvé encore un petit rebond pendant quelques années. Parmi les gens avec qui tu étais, comment ça s'est passé la sortie?
Alors, d'ailleurs, pour la petite
histoire, parce qu'on n'entend pas ça dans l'histoire,
c'est pas dans le documentaire, mm-hmm. mais finalement, il a pas eu son PTP à l'antenne de quartier. Et finalement, il a trouvé un petit boulot, un Activa, je crois, à la commune de Boisfort, où il est agent rodateur. Et donc, il a toujours pas fait sa formation en électromécanique. Alors, par exemple, pour le conducteur des petits riens, donc. Je sais que lui, il est toujours au petit rien. Il a peut-être un espoir d'être engagé, parce que les petits riens, comme je le dis déjà dans le documentaire, engagent les bons éléments, les articles 60. Donc, c'est vrai que, par exemple, une entreprise comme les petits riens est vraiment dans la réinsertion socio-professionnelle. Après, c'est encore mon point de vue, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises comme les communes qui usent et abusent des articles 60 et ne, n'engagent pas forcément, ou alors avec des PTP et des choses comme ça, mais il n'y a pas de vraie embauche, je dirais, pérenne, entre guillemets. Et donc voilà, par exemple, je sais que Céline, là, elle est toujours au chômage. J'ai pas eu de nouvelles de Fiston. Donc voilà, je sais que c'est pas évident.
C'est pas évident, en effet. Et c'est d'autant moins évident qu'il y a cette application stricto sensu de ne pas employer par les articles 60 des personnes issues du territoire européen. Mmh. Tu dis ça à la fin de...
Oui. Mais ça, c'est venu par la suite. C'est maintenant... maintenant, c'est ce qui se passe. Donc, quand moi, j'ai commencé le documentaire, on n'en était pas encore là. Mais depuis un petit temps, maintenant, les ressortissants européens, les étrangers, même en règle générale, quand ils vont s'inscrire au CPS, on envoie directement une lettre à l'Office des étrangers. Et donc, quelqu'un qui ne serait pas belge et qui viendrait demander l'aide du CPS pourrait se voir expulsé de la Belgique parce qu'il a fait la demande du CPS.
Et donc, c'est pour ça que je posais la question de quand a été réalisé le documentaire, parce qu'effectivement, cette situation-là arrive au moment du tournage et aujourd'hui, elle semble bien pratiquée. Et donc, je voulais souligner l'histoire d'une personne habitant Saint-Gilles. Elle s'appelle Sylvia Guerra. Peut-être tu as entendu parler de son histoire. Mmh. Ça ressemble à ce que l'article de presse disait au sujet d'un ressortissant espagnol qui s'est vu recevoir un ordre de quitter le territoire et pour les raisons qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'aide du CPS, comme considéré comme une charge de l'État belge. Et donc Sylvia Guerra, elle a un peu vécu cette histoire et effectivement, elle a trouvé une solution après une longue bataille avec un contrat de travail en bonne et due forme et non pas subventionné par la commune. Et donc, je trouve que... Enfin, je remercie beaucoup de cette démarche documentaire. Elle est assez fidèle à la situation des gens. Elle est assez proche d'eux et sans rentrer dans des détails administratifs et des explications juridiques de la situation du droit du travail comme du droit des étrangers, on sent bien qu'il y a un endroit très fragile alors que les personnes, elles sont en pleine santé, vaillantes et tout à fait capables de pouvoir subvenir à leurs besoins, sinon que...
Oui, puis même prendre une part active dans la société, ces gens-là, ils ont envie.
Ça me fait penser effectivement qu'on voit souvent ces personnes-là comme des personnes indignes, profiteuses, alors qu'en fait, c'est une situation générale qui fait que la personne se retrouve individuellement sans revenu, sans travail. À l'avenir, est-ce que tu vas continuer une enquête sur le monde du travail ou tu vas te diriger vers un autre projet radiophonique?
Pour l'instant, j'ai d'autres projets radiophoniques, mais qui ne sont pas du tout liés au monde du travail.
Est-ce que tu veux nous donner un petit scoop ou continuer à garder ça?
Non, je vais continuer d'abord à chercher par rapport à mon sujet, puis je reviendrai vous en parler une autre fois.
Voilà. On te remercie beaucoup d'avoir fait cette interview avec nous ici à Radio Panique. Et on espère que ce documentaire ait longue vie à travers les ondes sur Bruxelles et ailleurs.
Mais je l'espère aussi. Je l'espère aussi.
Et donc vous dire aussi que c'était une première mondiale, une exclusivité sur le 105.4 FM.
Complètement.
Et donc on remercie l'atelier de création sonore radiophonique d'avoir fourni l'essentiel du matériel et de nous avoir mis en relation pour une interview par téléphone. Mmh. Une bonne après-midi.
Bonne après-midi à vous aussi.
Ouais. Au revoir.
Au revoir, bonne journée.